Pour Carrefour de l'Europe s'absente une semaine, et je vous propose d'écouter ou de réécouter l'émission Femmes, l'Europe vous aime.
Spotkania europejskie.
Cruzimion tout Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Vous ne le savez peut-être pas, mais le continent européen est féminin. Déjà dans la mythologie grecque, Europe était une princesse. Aujourd'hui en Europe, la population est majoritairement féminine, mais surtout, l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondateur de l'Union européenne. Si l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore parfaite, comme par exemple en matière de salaire ou de représentation politique, l'Europe progresse. Les pays nordiques sont-ils les éléments moteurs de l'égalité hommes-femmes en Europe? Eh bien, nous le verrons. L'Europe est-elle un modèle pour les femmes des autres continents? Ou à l'inverse, l'Europe est-elle encore sexiste? Bonjour Pascal Johannin.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la Fondation Robert Schuman, une fondation évidemment éminemment européenne.
Oui.
Par définition.
Oui, puisqu'elle porte le nom du père français fondateur de l'Europe.
Zaina El Tibi, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste essayiste franco-libanaise. Votre dernier livre, L'Islam et la femme, avec un sous-titre appel pour en finir avec les exagérations et les clichés.
Oui. C'était justement pour montrer que l'islam n'est pas ce qu'on voit ou ce qu'on entend, et que la femme a des droits dans la religion musulmane. L'islam lui a donné ses droits et qui ne sont pas appliqués aujourd'hui. Et c'est la vision, que ça soit en Europe ou dans le Sud, donc dans les pays musulmans, est tout à fait faussée.
Un livre paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Merci. Elisabeth Elgan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne de Stockholm. Vous êtes professeur à l'université de Stockholm et spécialiste des mouvements féministes nordiques et européens. Et puis, j'ai terminé par vous, Maxime Forest. Bonjour. Vous êtes l'unique homme de ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. C'est quoi ce Haut Conseil?
Un organe consultatif qui est placé auprès du Premier ministre depuis janvier 2013. Voilà, qui compte 73 membres et qui a pour vocation d'impulser le débat sur les politique d'égalité en France.
73 membres, autant d'hommes que de femmes ou presque?
À peu près, oui, tout à fait.
Plus d'hommes ou plus de femmes?
Plus de femmes, mais on peut dire que c'est un organisme paritaire.
Pascal Johannin, entrons dans le vif du sujet. En ce 8 mars, journée pour l'égalité des droits, est-ce qu'on peut dire que l'Europe aime les femmes?
Oui, si on regarde en effet au niveau international, on s'aperçoit que c'est sur le continent européen que la présence féminine dans les postes de responsabilité est la plus forte, hein, que ça soit dans le monde politique, même s'il y a beaucoup de progrès qu'à faire, hein, ou dans les entreprises, dans les conseils d'administration ou les COMEX des entreprises. On voit aussi que, comme vous l'avez dit, la population est féminine.
51%, hein, un peu plus.
Un peu plus, oui, parce que les hommes, malheureusement, vivent moins longtemps que les femmes. Donc, il y a plus de femmes sur la... Et on voit bien que, dès l'origine, l'Europe s'est préoccupée de comment faire pour que les femmes travaillent. Là, le taux d'emploi des femmes est assez important. Alors bien sûr, il y a encore des inégalités salariales, mais elles sont moindres que dans d'autres pays. On voit aussi qu'il y a des travaux qui ont été faits pour permettre aux femmes de pouvoir travailler tout en ayant une vie familiale. C'est plus poussé. On a en France un modèle très choyé, hein, que d'autres pays nous envient, pour justement que les femmes puissent être à la fois mère et travailler. Donc on voit que ce continent européen, malgré toutes les imperfections qui restent à faire, hein, parce qu'il ne faut pas croire que c'est le nirvana, hein, il y a beaucoup, on en reviendra, mais c'est quand même, quand on regarde la scène internationale, on s'aperçoit que c'est là où pour les femmes, il fait le mieux vivre, puisqu'on peut à la fois s'épanouir, travailler, et on peut avoir des propositions d'avancement dans les carrières professionnelles que les femmes choisissent.
Maxime Forest, sans réécrire toute l'histoire, cette préoccupation d'établir une égalité entre les hommes et les femmes, elle a pris son envol dans les années 70 ou bien avant?
Alors, si on pense en particulier à l'Union européenne, hein, c'est quelque chose qui figurait dans le traité fondateur de Rome, mais de manière un petit peu incidente. Et l'objectif n'était pas vraiment de fonder l'égalité, c'était plutôt de limiter la concurrence. Voilà, ouais. C'était à titre annexe. Mais en revanche, ça a été saisi notamment par des défenseurs des droits des femmes et des féministes dans les années 70 et par la suite, en particulier dans les années 90-2000. l'Europe a aimé les femmes. L'Union européenne, en tout cas ses instances, ont vraiment fait avancer la cause des femmes. Faut savoir que une très grande partie des droits acquis, des politiques publiques en matière d'égalité dans les États membres ont une origine européenne. Mais j'aurais une nuance à apporter, c'est que dans un contexte de crise économique, financière, de crise morale aussi en Europe, on est clairement plus, au moins depuis la moitié des années 2000, dans une phase d'expansion de ces droits au niveau européen, plutôt dans une phase de rétraction, de moindre affirmation de ces droits. Et ça ne concerne pas que les instances de l'Union européenne, ça concerne aussi un certain nombre d'États membres, avec, cela dit, des différences évidemment entre eux.
Elisabeth Elgan, qu'est-ce qui explique qu'en matière d'égalité homme-femme, les pays nordiques aient toujours été en pointe? Est-ce que il suffit de dire que les Scandinaves sont moins machos que les autres Européens? Ça s'explique comme ça ou c'est plus subtil?
Je pense qu'il y a une part de culture politique, avec une culture politique tournée vers le réformisme depuis l'entrée en démocratie au début du XXe siècle, qui a joué beaucoup quand les organisations féministes ont commencé à réclamer plus de droits pour les femmes. C'était une culture politique qui était plus réceptive que certaines cultures politiques républicaines, ou comme dans certains pays de l'Europe, on était encore dans les années 60 et 70 sous des dictatures. Donc je pense que la culture politique réformiste des pays nordiques explique l'accueil plutôt favorable des demandes féministes pour plus d'égalité.
Zainé El Tibi, un premier regard franco-libanais sur la situation des femmes en Europe, peut-être en différenciant l'Europe du Nord de celle du Sud et peut-être du pourtour méditerranéen.
Oui, effectivement, on parle de l'Europe et de l'intérêt que les pays du Sud ont, et notamment les pays arabes méditerranéens, par rapport à l'Europe. Il y a d'abord cette proximité géographique, donc on a effectivement beaucoup de regards vers la femme européenne et avoir comme modèle pour d'émancipation, de présence dans la société telle qu'on la voit en Europe. Et effectivement, ça attire beaucoup les femmes, notamment libanaise ou marocaine, que je côtoie souvent. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'Europe est un modèle et l'Europe aide aussi indirectement à travers des élus à Bruxelles qui aident les organisations ou les associations féminines qui montent aujourd'hui et qui ont une prise de conscience de l'importance du rôle de la femme dans la société pour faire évoluer leur société qui, contrairement à celles du nord de l'Europe, elles sont, elles, misogynes. Donc là, vraiment, le lien entre le Liban, par exemple, et Bruxelles notamment, est très très important. Bruxelles aide beaucoup ces organisations.
Quand vous dites Bruxelles, c'est
L'Union européenne.
L'Union européenne, au sens large du terme.
Oui, 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 c'est ça. C'est l'Union européenne, bien sûr. Ce sont des élus qui, comme Madame Schmidt, qui a fait inviter en 2013 11 femmes libanaises qui se sont investies dans la politique, et elles ont été invitées justement pour voir comment fonctionne le système démocratique, les élections, et comment la femme est impliquée, entièrement impliquée dans la vie politique de chaque pays.
L'égalité de droit entre les hommes et les femmes reste un combat. Ces dernières années, les femmes européennes ont gagné en liberté, en autonomie. Pourtant, un droit qui paraissait acquis comme le droit à l'avortement est aujourd'hui remis en question. Certaines européennes ont donc plus de liberté à disposer de leur corps que d'autres. Petit tour européen avec Marie Afonso.
Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est une prérogative nationale. La plupart des États membres de l'Union européenne autorisent l'avortement en moyenne jusqu'à 12 semaines de grossesse. C'est le cas de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. La France, où la Sécurité sociale rembourse l'IVG à 100% depuis avril 2013. Une évidence pour Philippe Fauché, gynécologue.
Les femmes, elles peuvent être enceintes, accouchées, avortées. Il n'y a pas de raison que tout ne soit pas pris en charge de la même façon. Il n'y a pas de jugement à porter sur un acte plutôt qu'un autre.
L'avortement est permis jusqu'à la 12e semaine de grossesse, même dans des pays à tradition catholique, comme l'Italie, le Portugal et l'Espagne pour l'instant. En septembre 2014, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a abandonné un projet de loi controversé limitant fortement l'avortement. Ce texte n'autorisait l'IVG qu'en cas de danger prouvé pour la vie, la santé physique ou psychologique de la femme, ou après un viol, mais excluait les cas de malformation du fœtus. Selon Isabelle Serrano, porte-parole de Decidir nos hace libres, que l'on peut traduire par « Décider nous rend libres », il s'agissait d'une régression historique.
catholique.
Ce qui se passe dans notre pays avec la loi que nous avons, c'est que les problèmes ont diminué. Les femmes accèdent à l'avortement d'une manière plus sûre pour la santé, plus égalitaire, parce que dans toutes les régions, il y a possibilité que l'État rembourse les avortements. Il n'y a pas un plus grand nombre d'avortements. Depuis la légalisation, l'augmentation a été très petite. Quand quelque chose fonctionne d'une manière normalisée, nous pensons qu'il n'y a pas de raison juridique, ni médicale ou sociale, pour changer la loi actuelle.
Aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, l'IVG est pratiquée jusqu'à 24 semaines. En Irlande, contrairement à leurs voisins du Royaume-Uni, les avortements ont longtemps été illégaux et restent très encadrée. Très catholique, l'Irlande avait totalement interdit l'IVG en l'inscrivant dans sa constitution en 1983. Mais la législation s'est légèrement assouplie puisqu'une loi autorise désormais l'IVG en cas de risque avéré pour la vie de la mère. Il aura quand même fallu la mort en 2012 d'une jeune femme à qui on avait refusé une IVG alors qu'elle faisait une fausse couche. À Dublin, des milliers de personnes ont défilé, à l'instar de cette Irlandaise qui appelle à un accès légal de l'avortement.
Nous sommes ici aujourd'hui pour dire qu'en tant que femmes modernes du XXIe siècle, nous n'allons pas nous laisser gouverner par des lois qui datent de 1861. Je me sens encore méprisée par une église qui pense qu'elle doit tout contrôler. Et la manière dont elle contrôle, c'est en enlevant aux femmes leurs droits. Les gens qui sont dans la rue ont pris conscience de ce problème. Et je pense que les gens sont ici pour dire que nous, les femmes, et que l'Irlande, nous ne devons plus avoir honte.
Tout comme l'Irlande, la Pologne restreint l'accès à l'avortement. Il ne peut être pratiqué qu'en cas de viol ou d'inceste, si la vie de la mère est en danger ou encore si le fœtus présente de sévères malformations. Quant à Chypre, l'interruption volontaire de grossesse, bien qu'interdite dans les textes, est tolérée en cas de viol ou d'inceste. En revanche, sur l'île de Malte, l'avortement est strictement interdit, quelles qu'en soient les raisons. Il s'agit d'un délit passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans.
Pascal Johannin, le droit à l'avortement, c'est un droit essentiel dans l'égalité homme-femme.
Oui, je crois qu'en effet, c'est une maîtrise de son corps que les femmes ont longtemps pas eu, et donc c'est quelque chose qui est essentiel. Alors en effet, en Europe, il y a des différences parce qu'on vient tous de cultures différentes et qu'en effet, le poids de tradition, de religion n'est pas le même. On voit bien qu'en France, de toute façon, ça a été une lutte qui a été assez récente. Hein, la loi de Veil date de 40 ans à peu près. Donc oui, c'est des droits qui sont relativement nouveaux.
Que certains sont tentés de remettre en cause.
Alors que certains... Il faut toujours se méfier parce qu'en effet, dès qu'on parle d'avortement, d'abord il y a des passions, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Donc ça c'est. Mais dès qu'en effet un gouvernement émet, on l'a vu avec le cas de Mariano Rajoy en Espagne, aussitôt il y a des mouvements populaires qui sont pas que féminins d'ailleurs. Et puis en effet, on est obligé de faire marche arrière parce que ça, autant on peut progresser, autant le retrait de d'une loi est mal vécu et peut engendrer des vraies passions dans la population.
Elisabeth Elgan, il y a eu une alternance en Suède entre des gouvernements sociaux-démocrates pendant très longtemps et des gouvernements conservateurs. Est-ce que ce droit à l'avortement est remis en cause ou pas par les franges les plus conservatrices suédoises?
Parmi les partis politiques, non. Il n'y a pas eu de remise en cause. Même, je dois dire que le parti chrétien-démocrate qui avait en charge ces questions dans le gouvernement de droite qui était en place jusqu'en mois de septembre, a pris des initiatives pour élargir la possibilité de venir avorter en Suède pour des femmes qui n'habitent pas dans le pays. Donc parmi les partis politiques, il y a un consensus. Cela dit, il y a ici aussi des extrémistes religieux de toutes sortes, de toutes croyances, qui par des voies assez détournées essayent de mettre en question le droit à l'avortement.
Maxime Forest, je sentais que vous vouliez intervenir.
Oui, en effet, moi, je pense que c'est vraiment un exemple, la question de l'avortement et plus largement des droits sexuels et liés à la santé reproductive des femmes, en quoi les droits des femmes sont si difficiles à inscrire dans la durée et à préserver de retour en arrière. Alors effectivement, le cas de l'Espagne est éclairant à cet égard. Certes, le gouvernement a fait marche arrière suite à des mobilisations, mais néanmoins, il y a d'une part, du temps où il était dans l'opposition, le parti actuellement au pouvoir, le Parti Populaire, avait introduit un recours devant le tribunal constitutionnel. Ce recours est toujours actif, donc il y a un risque qui pèse au niveau constitutionnel sur la loi relativement ouverte qui avait été adoptée en 2010, et d'autre part, pas plus tard qu'à la mi-février, Le gouvernement espagnol a agi par une manière assez exceptionnelle, par une procédure législative rare, pour modifier un des articles de cette loi, celui qui permettait aux jeunes femmes à partir de 16 ans, entre 16 et 18 ans, de recourir à l'IVG sans l'autorisation parentale. Désormais, elles doivent avoir cette autorisation. Et puis, le Haut Conseil à l'égalité auquel j'appartiens a rendu récemment un rapport sur l'IVG en France, qui montre qu'évidemment, on n'est pas dans cette situation de recul et de menace sur le droit, mais sur son exercice, dans la mesure où on voit que petit à petit se sont stratifiés au fur et à mesure des années des limites dans l'accès effectif au recours à l'IVG. Et ce qu'on voyait aussi, et qui a été corrigé depuis, c'est que sur le web, lorsque vous souhaitiez vous interroger, vous obtenir des informations sur cette question, vous étiez redirigé immédiatement vers des sites anti-avortement. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une information publique qui est fournie. Et je fournirai un dernier exemple, c'est ce qui se passe en Europe centrale. Avec la crise en particulier, se reviennent toujours un petit peu les forces notamment dans des petits pays, je pense à la Hongrie de Viktor Orban, la question de l'avortement, la question démographique et l'avenir démographique d'un pays. Évidemment, avec la crise, on fait moins d'enfants, dans un pays comme celui comme la Hongrie aujourd'hui, vous avez des tentations de remettre en cause ce droit, mais néanmoins. En Pologne, on a quelques lumières qui s'ouvrent de ce côté-là et on voit une évolution très légèrement favorable de cette
situation. Est-ce que vous diriez, Maxime Forest, qu'il y a un rapport entre, dans le cadre de l'égalité homme-femme, entre les gouvernements progressistes et les gouvernements conservateurs? Est-ce que systématiquement, les droits des femmes reculent lorsque les gouvernements sont conservateurs ou pas? On peut quand même avoir en mémoire que Simone Veil a défendu le droit à l'avortement en France et elle était membre d'un parti conservateur.
Alors, je serais pas aussi systématique. D'une part parce que les droits des femmes ne progressent pas de manière significative systématiquement lorsque les partis progressistes et de gauche sont au pouvoir, d'une part, et qu'ils ne reculent pas nécessairement lorsque des partis plus conservateurs le sont. Mais dans l'ensemble, les grands progrès en Europe ont été davantage portés par des partis progressistes ou du centre les grands reculs introduits par des partis conservateurs, mais là encore c'est pas systématique. Tout dépend en fait de l'enracinement de ces politiques d'égalité dans la pratique, dans les lois, dans le terreau juridique et constitutionnel, et là on s'aperçoit que le coût, d'une certaine manière le coût COUT de remettre en cause ces droits s'élève. Et on l'a vu en Espagne, à savoir le recul du gouvernement et la démission du ministre de la Justice.
Elisabeth Elgan, vue de Stockholm, c'est un point de vue que vous partagez ?
Absolument, absolument. Mais je voudrais rajouter que les choses ont pas mal changé les 10 ou 15 dernières années. Parce qu'avec, justement, les mesures qui ont permis aux femmes d'entrer sur leur marché de travail, faire carrière, etc., toutes ces réformes qui ont été mises en place pour accompagner et faciliter, ont fait aussi que les femmes ont aujourd'hui une présence dans beaucoup plus de milieux, d'endroits, de lieux de travail qu'avant. Et ça aussi, ça influence la politique. C'est sûr qu'un parti conservateur qui veut avoir des électrices, pas seulement des électeurs, est obligé d'adapter sa politique à cette nouvelle situation et pas considérer que leurs seules électrices sont les femmes qui désirent rester au foyer, qui sont d'ailleurs très peu ces femmes aujourd'hui. Donc je pense que l'évolution de la société qui a accompagné la demande féministe de plus de liberté pour les femmes a aussi changé la politique.
Les féministes étaient toujours à gauche, Pascal Johannin ?
Non, c'est une idée reçue sur laquelle je m'élève parce que moi aujourd'hui, quand je regarde la carte politique de l'Union européenne, sur 4 premières ministres au sein de l'Union européenne, il y en a 3 qui sont à droite. Il y en a qu'une à gauche. Alors donc, si la gauche veut faire la promotion des femmes, ils peuvent, mais je m'aperçois qu'ils gardent aussi la tentation souvent de garder le pouvoir pour eux. Donc c'est un fait. Voilà, il y a 4 femmes. Quand on regarde les 2 présidentes de la République qui existent aussi au sein de l'Union européenne, elles sont toutes les 2 quand même plutôt placées à droite. Et donc il n'y a pas de présidente de gauche. Voilà. Donc si en effet les progressistes sont à gauche, ils n'ont pas fait beaucoup de choses pour les femmes parce que celles qui sont élues sont plutôt à droite.
On va revenir dans la deuxième partie de l'émission sur ces problèmes de parité. Donc faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps des infos, avant de retrouver nos invités et de reprendre notre débat, l'Europe, un continent féminin, point d'interrogation. A tout de suite. Pour Carrefour de l'Europe s'absente une semaine, et je vous propose d'écouter ou de réécouter l'émission Femmes, l'Europe vous aime.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Déjà, dans la mythologie grecque, Europe était une princesse. Aujourd'hui, en Europe, la population est majoritairement féminine. Mais surtout, l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondateur de l'Union européenne. Si l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore parfaite, comme par exemple en matière de salaire ou de représentation politique, l'Europe progresse. C'est le sujet de notre débat. Je vous représente rapidement nos invités. Pascale Joannin, directrice de la Fondation Robert Schuman. Zaina El-Tibi, journaliste essayiste franco-libanaise. Son dernier livre, L'Islam et la femme, rappel pour en finir avec les exagérations et les clichés. Elisabeth Elgan, professeure à l'université de Stockholm, spécialiste des mouvements féministes nordiques et européens, en ligne de la capitale suédoise. Et Maxime Forest, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Alors avant de reprendre notre débat, je vous propose de faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Jerry Feli.
Bonjour.
Il y a un domaine où l'égalité homme-femme était quelque peu à la traîne, c'est bien sûr les religions. Mais là également, cela évolue lentement, et pas pour toutes les religions bien sûr. Outre-Manche, en tout cas, les Anglicans viennent d'ordonner une première femme évêque, c'était il y a quelques semaines, et l'événement n'a pas échappé à Courrier International.
Absolument, Daniel. Libby Lane, donc le 25 janvier, c'est la révérende Libby Lane qui a été consacrée comme la première femme évêque de l'église anglicane d'Angleterre, lors d'une cérémonie à la cathédrale de York, donc dans le nord d'Angleterre. L'étonnement a été assez grand parce que, voilà, c'est une femme qui a une personnalité très discrète et son nom est sorti du chapeau en décembre pour incarner cette évolution. Parce qu'à savoir que ça fait des années qu'il y a ce débat dans l'église d'Angleterre, comme on dit, the Church of England, pas. Voilà, en 2008, ça a été décidé qu'on pourrait éventuellement consacrer une femme évêque. 7 ans plus tard, c'est fait, c'est Libby Lane. C'est une originaire d'une famille anglicane, mais pas très pratiquante. C'est une mère de 2 enfants, parce que dans l'église anglicane, effectivement, on peut se marier, faire des enfants. C'est une joueuse de saxophone, à 16 heures. Et elle est aussi fan du club de football de Manchester United, que j'approuve énormément, parce que c'est mon équipe aussi. Et voilà, elle prend la tête de l'évêché de Stockport. C'est une ville du Grand Manchester, le métropole de Manchester. Voilà, elle était ordonnée prêtre en 94. En fait, elle était aussi une des premières femmes prêtres de l'église anglicane, parce que, en fait, ils étaient seulement d'accord sur la notion d'ordonner les femmes prêtres à partir de 92. C'est une first, c'est la toute première fois dans l'histoire de cette église qui a été fondée, à savoir en 1534 par, bien sûr, Henri VIII, qui voulait divorcer sa femme Anne Boleyn. Le pape a dit non, voilà, Henri a eu la grande idée de créer son église à lui-même, l'église d'Angleterre, une espèce de protestantisme soft ou light.
Merci Jerry. Courrier International l'hebdo et courrierinternational.com le site. Est-ce que les religions sont un obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes? Et je suis évidemment tenté de vous poser la question, Zaina El-Tibi.
Oui, effectivement, moi je dirais que pas du tout dans l'islam. Comme je le disais en commençant, c'est que l'islam a donner ses droits à la femme dans la société de l'époque, et malheureusement aujourd'hui c'est le poids des traditions qui freine ces droits-là, et notamment le fait qu'une femme puisse mener une prière. Même du temps du prophète, les femmes menaient la prière face à des hommes, elles avaient le droit de le faire. Ça a bien changé, mais ceci dit, par exemple, au Maroc, il y a beaucoup de femmes imams, ou des femmes qui sont là pour éduquer, pour apprendre la religion musulmane aux enfants, ou même à des adolescents ou à des plus vieux, plus âgés. Donc le principe en lui-même n'est pas du tout interdit. Il n'y a pas d'interdiction. La femme peut le faire, et elle est, si vous voulez, le principe fondamental est que l'homme et la femme sont égaux, mais surtout la différence, c'est dans la manière dont on applique la religion et la foi. Donc, le principe de l'égalité entre hommes et femmes existe dans les textes. C'est malheureusement, après cette société misogyne, les traditions anciennes qui sont venues bloquer cette évolution. Mais quand on voit que du temps du prophète, elles étaient très émancipées.
Alors, Maxime Forest, Zaina El Tibi vient l'expliquer. En matière de religion, les hommes ont évidemment pris le pouvoir.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je distinguerais finalement trois niveaux. Ce à quoi vous faisiez allusion à l'instant, ce que j'appellerais les origines, le dogme, et puis la pratique. Donc, effectivement, aux origines, dans les principes des grands monothéismes, où on peut trouver appui pour une reconnaissance et du rôle de la femme et de son importance, voire de son rôle dans la pratique de la foi elle-même. Dans le dogme, moins, nettement, puisque au fur et à mesure où s'accumule, se stratifie l'ensemble des textes qui produisent la norme religieuse, la norme des églises au pluriel, au sens général du terme, eh bien, on voit que, comme dans toute production de normes, on a tendance à exclure les femmes, c'est un des fondements de la norme en général, et puis dans la pratique, tout particulièrement là où il y a une hiérarchie religieuse, là je pense notamment à l'Église catholique romaine, eh bien là on a une exclusion systémique des femmes puisque on a la distribution du pouvoir. Alors dans le cas de l'islam c'est un peu différent puisque on n'a pas d'hiérarchie, on en a plusieurs, mais néanmoins partout où cette hiérarchie existe, elle a aussi cette tendance à répartir le pouvoir entre pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire entre souvent pères, P-E-R-S, c'est-à-dire entre hommes.
Entre soi, entre soi.
Il y a une différence effectivement dans le sunnisme, il n'y a pas de hiérarchie ni de clergé, mais chez les chiites ça existe. Et là on voit que la femme est complètement mise à l'écart.
Elisabeth Elgan, comment ça s'est passé dans l'histoire récente des protestants, puisque évidemment les Suédois sont majoritairement protestants.
Les pays nordiques sont majoritairement luthériens, faut dire. Et ce sont des églises qui ont fait un voyage rapide. En 50 ans, elles ont évolué en donnant une vraie mixité, une vraie place aux femmes. Donc l'église luthérienne de Suède, auquel cotisent les deux tiers de Suédois, ont maintenant une femme à la tête de l'église, donc une femme archevêque et les évêques, puisqu'on parlait de l'église anglicane, des évêques dans l'église luthérienne suédoise, il y en a depuis plusieurs années maintenant. Mais moi je voudrais aborder le sujet des variantes plus extrêmes des religions que nous voyons, en tout cas en Suède et je pense dans plusieurs pays européens, qui sont ces fanatiques, quelle que soit leur religion, mais qui sont très à l'offensive. Moi, je pense à ces manifestations en France contre le mariage des homosexuels et qui ont continué sur d'autres thèmes semblables, qui ont beaucoup choqué ici en Suède. Et mais je vois aussi des tendances en Suède, ces extrémisations dans certains sectes religieuses, dans certains croyants, que je pense souvent se fixent justement sur comment on doit vivre et sur la place des femmes, qui souvent est le signe d'une modernité à laquelle on s'oppose.
Pascal Jeannin, est-ce que vous diriez que la libéralisation des femmes passe par la remise en cause du modèle familial traditionnel, où traditionnellement c'est le père qui ramène l'argent au foyer et la femme qui élève les enfants?
Ce modèle-là, en tout cas, a explosé en vol, en tout cas en Europe, parce que aujourd'hui, pour des raisons financières, la plupart des couples travaillent les deux membres.
Pas dans tous les pays, hein.
Non, pas dans tous les pays, mais on voit quand même que en Europe, majoritairement, les femmes travaillent. Il y a même en Europe, il y a quelques couples où en effet, c'est la femme qui gagne plus que l'homme. Hein, donc ça existe aussi. Alors maintenant, ce qui permet aussi aux femmes d'accéder à l'emploi, il y a des bémols puisque à partir du moment où vous devenez mère. Et là, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on devient mère, le taux d'emploi diminue dans tous les pays. Bon. Alors, il diminue plus ou moins selon qu'il y a ou pas des possibilités pour les femmes de concilier ces deux vies qui sont familiales et professionnelles, parce qu'il existe des structures qui permettent de garder les enfants.
Alors, en clair, des crèches.
Voilà, en clair, des crèches, des kindergarten, comme tout le monde le dit à peu près dans le monde. Et justement, ça nous permet de voir, par exemple, sur le couple franco-allemand, que les Françaises travaillent plus facilement que les Allemandes, parce qu'en effet, les femmes françaises ont la possibilité, dès qu'elles ont un enfant, de pouvoir le faire garder, alors que la femme allemande, elle, quand elle a des enfants, on la montre un peu du doigt en disant « mais tu continues à travailler ». C'était vrai aussi au Japon pour extrapoler dans le monde. Donc en effet, en France et en Europe, il y a plus de femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur et on ne retrouve pas forcément ce taux d'emploi à un moment T de la vie, qui peut être la quarantaine, parce qu'en effet, les femmes se sont arrêtées de travailler à un moment, alors par choix pour certaines, mais beaucoup par obligation, parce qu'en effet, il n'y a pas en effet de structure de garde d'enfants, et si vous n'avez pas vos parents ou les moyens financiers de faire garder vos enfants, ben vous n'avez personne. Mais on voit que cette question de la garde des enfants est une donnée européenne et que peu à peu les pays qui n'ont pas ces structures s'y mettent. Alors c'est pas toujours facile, mais c'est au départ une volonté européenne de permettre à toutes les femmes de pouvoir travailler et de pouvoir progresser dans leur carrière professionnelle sans être retenues par le fait de pas faire d'enfants, puisque nous avons quand même en Europe un problème, c'est que nous sommes un continent qui vieillit et qui n'a pas de reproduction démographique suffisante pour la suivi des générations. Donc on a dans le monde le seul point où, en effet, la population, la démographie est faible, c'est en Europe, avec la Russie.
Maxime Forest, vous avez eu envie de rebondir au propos de Pascal Johannin.
Tout à fait, je salue cet optimisme, mais quand même, je soulignerais que les femmes, d'une manière générale, en Europe, travaillent effectivement avec quand même des écarts très sensibles entre certains pays. Il y a néanmoins, dans la manière dont s'organisent les systèmes sociaux, bien au-delà des systèmes de garde, la sécurité sociale, les allocations familiales, le système de pension, est ancré toujours dans ces systèmes, dans la plupart des pays, ce qu'on appelle le modèle du male breadwinner, hein, c'est-à-dire de monsieur gagne-pain, pour le dire en français. Et ça demeure, hein, ça explique un écart de retraite qui est de 52% en France. Ça continue d'expliquer une partie de l'écart salarial qui, pour un pays comme la France, tourne selon les modes de calcul entre 16 et 27%.
C'est-à-dire que les hommes gagnent en moyenne entre 16 et 27% de plus que les femmes à travail égal, c'est
voilà.
Ça.
Et pourquoi ? Une partie de l'explication vient du fait que dans l'esprit général, et parfois dans la lettre même des textes et de la manière dont sont organisés nos systèmes sociaux, c'est toujours ce modèle qui prévaut et qui a très longtemps laissé l'idée que le salaire féminin, bien que nécessaire, était quand même un salaire d'appoint. Et on retrouve trace de cette conviction qui a duré très long, qui a eu la vie dure, dans ces écarts au niveau des retraites qui expliquent un autre très important de nos sociétés en général en Europe et qui est tout à fait marqué pendant la crise que l'on est en train de vivre, c'est que la pauvreté en Europe également est un phénomène très largement féminin et qui concerne tout particulièrement les mères qui s'occupent seules de leurs enfants.
Les familles monoparentales, comme on dit. Zaina El-Kibi.
Oui, en fait, je voulais rebondir un tout petit peu sur l'idée de changement de société. Là, je vais donner le point de vue plutôt du Sud et je prendrai le Maroc comme exemple en disant que le couple, aujourd'hui, il y a les femmes qui travaillent et les hommes qui travaillent. Donc, ils sont presque à égalité, disons. Donc il y a une responsabilité partagée, ce qui a fait que en 2004, avec le nouveau code de la famille, ce qu'on appelle la Mudawana, il y a l'idée d'équilibre dans le foyer et la responsabilité partagée des parents qui est bien affirmée grâce à cette Mudawana. Et je pense que c'est effectivement pour donner la possibilité à la femme marocaine de s'affirmer et dans le foyer et dans la société et de pouvoir, puisqu'elle travaille, donc elle a des responsabilités partagées. Donc on lui donne aussi des devoirs et des droits grâce à l'évolution de ce code de la famille. Donc l'évolution de la société vient aussi des besoins de la femme dans cette société.
Par le travail et l'éducation, bien évidemment.
Bien sûr, l'éducation, le travail, et sans oublier qu'il y a des besoins, au départ, des besoins économiques qui ont poussé ces sociétés. Même, allons un peu plus loin, vous voyez, en Arabie Saoudite, aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent, on ne les voit pas vraiment, mais elles sont actives dans la société et elles ont des devoirs partagés. Malheureusement, la société elle-même n'a pas beaucoup évolué au niveau des lois, je veux dire, mais sinon, l'image même de la présence de la femme dans la société saoudienne est totalement différente qu'il y a 10-15 ans.
Carrefour de l'Europe, l'Europe a un continent féminin, c'est une question qu'on se pose sur cette journée du 8 mars. Nous sommes avec Pascal Johannin, directrice de la Fondation Robert Schuman, Zaina El-Tibi, journaliste essayiste franco-libanaise, Elisabeth Elgan, professeure à l'Université de Stockholm, et Maxime Forest, enseignant-chercheur à Sciences Po. Alors, est-ce que dans le domaine de l'économie, Pascal Johannin, l'Europe a fait les progrès des femmes PDG, vous en connaissez ?
Il y en a, la LOIS est présidée par une femme, femmes aujourd'hui, le grand journal britannique aussi, avec Time. Donc vous en avez. Ce qui est toujours embêtant, c'est que on signale ces femmes
comme des exceptions.
Parce que ça reste encore des exceptions. Mmh. Alors, on va peut-être.
On évoque encore aujourd'hui Anne Auvergeon qui n'est plus à la tête d'Areva depuis quelques années, mais on en parle encore aujourd'hui.
Voilà. Alors, c'est vrai que est en train de se passer un événement quand même important. C'est-à-dire que récemment, les pays, alors la Norvège avait commencé en 2004, donc c'est tout récent, a imposé des quotas pour imposer en effet dans les organes de direction des entreprises une présence de femmes. Alors ils ont fait fort, ils ont été à 40%, donc c'est le seul pays aujourd'hui où il y a en effet autant de femmes. Au niveau européen, on est en train, plusieurs pays, la France et même l'Allemagne actuellement, de se dire, bon voilà, il y a quand même un mouvement qui est en cours, ça ne se fait pas naturellement, donc si ça ne se fait pas naturellement, il faut l'aider avec un dispositif législatif, parce qu'en effet, c'est quand même la moitié de la population, et donc la moitié de la population doit quand même participer, les femmes travaillent depuis quand même plusieurs années, et il n'est pas normal qu'il y ait un plafond de verre et qu'elles ne puissent pas accéder au sein des seins où se prennent les décisions, etc. Donc, on a imposé des quotas, et en France notamment, on est passé d'une structure qui était à moins de 10% des conseils d'administration, aujourd'hui où il y a à peu près 30% de femmes, et on doit passer d'ici 2017 à 40%. Et donc, on voit qu'en Grande-Bretagne, c'est la même chose, un pays qui n'est pas de même tradition, et etc. Là, c'est 25% aujourd'hui, donc ils ont un ministre du business, Vince Cable, qui essaye de faire que l'objectif de 2015, 25% soit atteint. On a des choses aussi en Espagne, on a des choses dans les pays du Nord, donc on voit bien que ce progrès va amener forcément des femmes un jour à être désignées par leur père, parce qu'elles sont dans les conseils, peut-être président-directeur général. Voilà.
Alors, j'en profite pour dire que RFI est dirigé par une femme et que France Média Monde, qui est la holding au-dessus de RFI, s'occupe de RFI et de France 24, est aussi présidée par une femme en la personne de Marie-Christine Sargos. Je voudrais demander les causes qu'en pense Elisabeth Elgan avant de vous donner la parole, Maxime Forest. Là encore, les pays nordiques et scandinaves, la Norvège a été en pointe dans la présence des femmes dans les hautes sphères de l'administration économique.
Oui, mais c'est vrai que la Norvège a une tradition de quotas qu'on n'a pas dans beaucoup d'autres pays. En Suède, par exemple, c'est pas le cas. Donc, les chiffres pour la Suède sont à peu près les mêmes que pour la France. Et en vue du 8 mars, il y a eu pas mal de débats ici en Suède sur le fait que maintenant, bon, les entreprises font des efforts pour avoir de plus en plus de femmes dans leur conseil d'administration, mais aussi à d'autres postes de direction, à des postes exécutifs. Mais qu'en même temps, ces femmes ont souvent un profil social, culturel tout à fait semblable aux hommes qui y sont, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes réseaux, les mêmes écoles qui sont représentées. Donc il y a toute une discussion sur quelles sont les conséquences pour l'entreprise de toujours choisir ses dirigeants et ses cadres supérieurs avec le même profil. Je trouve que c'est une discussion assez intéressante parce que sinon c'est difficile pour la politique d'influencer les entreprises. La politique ne peut pas, il n'y a pas beaucoup d'outils, il y a justement un certain nombre de règles autour d'entreprises cotées en bourse, mais pour la politique c'est difficile, c'est pour ça que c'est un secteur qui est resté beaucoup plus traditionnel que le monde du travail, par exemple, où la politique peut agir plus facilement.
Maxime Forest, vous aviez envie de réagir à tout ce qu'on vient d'entendre.
Tout à fait. Ce que disait Elisabeth, ma collègue, est intéressant parce que effectivement, il y a pas de tradition de quotas d'une manière générale dans les pays scandinaves, à l'exception de la Norvège. Les changements s'y sont faits par un changement sociétal profond. Mais le cas des femmes dans les conseils d'administration d'entreprise est un bon exemple du fait que là où les résistances sociétales sont plus fortes, et notamment en Europe continentale, en Allemagne par exemple, ou en Europe plus méridionale comme en France, en Espagne, les quotas ont leur place dans l'arsenal de mesures. Et l'exemple qui a été cité pour la France, effectivement, est marquant. Mesure adoptée, et d'ailleurs je le note, sous un gouvernement conservateur.
La loi Copé.
Zimmermann, voilà, qui a permis un progrès, et on arrivera très vraisemblablement aux 40% de femmes comme prévu en 2017. Ce que ça montre aussi, c'est que l'argument qui est souvent évoqué dans les milieux d'affaires des femmes introuvables ne tient pas, puisque quand on les cherche, bizarrement, on les trouve. Et donc ça montre, voilà, simplement au niveau européen, le projet de directive, lui, pourtant très modeste, plus modeste que la loi française, consistant à favoriser l'accès des femmes au conseil d'administration des entreprises les plus importantes, des entreprises cotées, est toujours plus ou moins dans les cartons.
Il est adopté par le Parlement européen,
voilà,
mais c'est le
conseil.
Il est
bloqué par les États.
Par les États, parce qu'il n'y a pas de consensus pour ce.
Et même si l'avis de l'Allemagne a évolué, parce que elle-même réfléchit sur ces questions, elle reste l'un des pays qui a fait obstacle à cette adoption.
Alors, pour rester au niveau européen, on veut petit rappel de la difficulté qu'a eu Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, lorsqu'il a voulu féminiser la Commission. La précédente Commission, la Commission Barroso, comptait 9 commissaires sur 28. Jean-Claude Juncker a fait un appel à tous, justement, les chefs d'État réunis en Conseil, et peu de femmes.
La même chose. Il n'y a pas de progrès avec le renouvellement des institutions au niveau de la Commission. C'est-à-dire qu'en effet, on pouvait s'attendre, parce que la Commission, cette fois-ci, avait 28 membres, donc un nombre pair, et donc on peut diviser ça par deux, parce que c'est vrai que quand vous avez 27 membres, si vous voulez la parité exacte, c'est un peu plus compliqué. Bon, la Croatie nous ayant rejoint, on avait 28 membres. Et on aurait pu donc se dire que, puisqu'il y a des grandes déclarations, que le gouvernement Renzi est paritaire, que le gouvernement Hollande est paritaire, etc., on se dit que il y a des chefs d'État qui sont pro-parité dans leur pays, ils vont en effet imposer ça au niveau européen.
Eh bien non.
Eh bien non. Et donc il a fallu que Jean-Claude Juncker se fâche et que certains députés disent, mais si la Commission elle est pas comporte moins de femmes que sous Barroso, ben on votera pas l'investiture, on va bloquer les choses. Les députés européens. Pour qu'en effet certains États fassent le pas.
Et à la fin de l'histoire, il y avait 9 femmes dans la Commission Barroso, il y a 9 femmes dans la Commission Juncker.
Oui, il y a 9 femmes. Ça n'a pas changé. Sauf qu'elles ont obtenu un peu plus de portefeuilles importants. C'est-à-dire dans les compétences qui sont les compétences de l'Union européenne, parce qu'on voit aussi l'Europe avec plein de compétences, mais c'est assez restreint. Hein. Mais enfin, celles qui sont pleinement européennes, comme le commerce ou la concurrence, sont dirigées par des femmes. Le budget, qui d'habitude est toujours un truc qu'on garde pour les hommes, parce que les cordons de la bourse, etc., c'est une femme, une bulgare, elle est même vice-présidente. Donc, elles ont été récompensées. Mais ça veut dire que la prochaine fois, parce qu'il y a vraiment une attente et un quelque chose, c'est que le prochain président de la Commission, il ne pourra pas faire moins bien. Il sera obligé même de faire beaucoup mieux, parce que je crois que dans la société européenne, le temps et la maturité est arrivée pour que, si jamais ça se produisait, une commission ne pourrait pas comporter moins de femmes que la sortante.
Ben, c'est vrai, l'Union européenne, dans sa composante Parlement européen et Commission, reste au bout du compte incitative. Elle ne peut pas obliger les gouvernements, ou pas vraiment.
Non, elle ne le peut pas. Indépendamment d'un certain nombre de règles, hein, quand même, qu'elle a adoptées, qui s'appliquent tout particulièrement, comme on l'a dit, à l'environnement du travail, de la conciliation avec la vie privée et un certain nombre d'autres aspects. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas ce pouvoir-là. En revanche, la nature des politiques de l'Europe, en général, et notamment sur les questions d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations, c'est effectivement une politique incitative qui passe par des manières de faire, par des budgets aussi, qui sont importants en matière de politique sociale, en matière de politique d'emploi, pour leur utilisation, nécessitent d'intégrer cette perspective de l'égalité. C'est le cas, y compris dans un domaine comme le mien, celui de la recherche, où de plus en plus, on conditionne l'accès aux fonds de recherche et d'innovation à ces aspects-là. Et ça, c'est une caractéristique de l'Union européenne, que d'avoir transversalisé, disséminé cet objectif, qui est un de ses principes fondateurs, d'avoir transversalisé ça dans un très grand nombre de domaines. Au final, ça a un impact certain sur l'évolution des États membres, ce qu'on appelle l'européanisation en matière d'égalité, mais néanmoins, comme vous l'avez dit, difficulté à agir de manière plus stricte, sauf dans le cas de l'adoption de directives ou de dispositions dans les traités.
Zain Al-Dibi, on arrive à la fin de cette émission, j'ai envie de vous donner le mot de la fin. Est-ce que pour vous, finalement, l'Europe, c'est un modèle pour les femmes du monde entier ?
Oui, ça peut être un modèle pour les femmes du monde entier, mais c'est surtout pour les femmes du sud de la Méditerranée. Comme je le disais, on a les frontières pas très proches, quoi. On est très proches les uns des autres, et nous, Libanaises, on regarde l'Europe. Et il faut pas oublier que l'Europe, le nom Europe, vient du Liban. C'est une déesse, soit, mais libanaise au départ, enfin phénicienne. Donc, il y a beaucoup de femmes libanaises, et je prends juste l'exemple de Women in Front. Ce sont des femmes qui se sont engagées dans la politique, et leur contact est avec justement l'Union européenne et des élus de l'Union européenne pour pouvoir les aider et appliquer toute évolution sur place et conseiller.
En Tunisie, où le printemps arabe se poursuit, on regarde ce qui se passe en Europe, enfin, les femmes
si vous
tunisiennes.
Voulez, c'est une sorte d'exemple à suivre et surtout à ne pas rater. Par exemple, à un moment donné, les femmes tunisiennes ont eu des craintes de régresser par rapport à tout ce que Bourguiba leur avait apporté comme émancipation et évolution dans les lois et les textes. Et en fait, il y a toujours ce contact, évidemment, avec des élus européennes qui les encouragent à continuer à revendiquer et surtout à faire attention à ne pas régresser. Et ces contacts entre associations et organisations non gouvernementales et élus européens est très très fort et aide beaucoup. Et c'est vrai que grâce à l'Union européenne, les femmes, que ce soit au Liban, en Tunisie, je pense au Maroc aussi, elles sont, si vous voulez, appuyées de façon à respecter le propre système de ce pays, mais à encourager les femmes à revendiquer leurs droits. Et ça, c'est très important.
Merci, merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Zaina El Tibi, je rappelle le titre de votre livre, L'Islam et la Femme, sous-titre, rappel pour en finir avec les exagérations et les clichés, et c'est paru chez Des Clés de Bouvert. Réalisation de cette émission, Guillaume Muni avec la complicité de Juliette Sauce. Sur la page de l'émission, via RFI.fr, plein de choses vous attendent, comme par exemple les références de nos invités ou la possibilité de réécouter ce Carrefour de l'Europe. N'oublions pas les applications gratuites tablettes et smartphones de RFI et les réseaux sociaux. Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desesquels, où que vous soyez, à Paris, Stockholm, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.